tous et à toutes. Je ne sais pas si on peut appeler ça la suite d'une série, si ça fait 2 ans. Mais bon, je ne m'attends pas à ce que vous en souvenez des détails, mais je vais quand même vous donner une petite révision. Je ne veux pas refaire le chapitre 1, parce que je veux quand même avancer dans l'histoire. Il y a tellement de choses à voir puis à apprendre, à mettre en pratique. Dans le chapitre 1 de Ruth, qui suit le livre des juges, on a vu que ce personnage Élimélec et sa femme Noémie n'auraient pas dû aller à Moab pour trouver du pain. Élimélec, qui se trouve à être le beau-père de Ruth, pour qui le livre est nommé, Élimélec meurt et ses deux fils aussi. Noémie et ses deux belles-filles se retrouvent seules, une situation grave pour des veuves à l'époque. Noémie décide de retourner dans sa patrie et dans son désir de décourager ses belles-filles de la suivre, elle raconte à quel point, selon elle, vous rappelez, que Dieu n'était pas bon envers elle. L'Éternel m'a fait du mal, elle a dit. Deuxième scène, ironiquement, une de ses belles-filles, Ruth, malgré la dissuasion de sa belle-mère, décide de rentrer à Bethléem avec sa belle-mère et de faire du Dieu de Noémie son Dieu à elle. Troisième scène, rendue à Bethléem, donc, Noémie continue à se plaindre. Mais l'auteur veut être certain qu'on comprenne que Dieu, dans sa providence, est à l'œuvre de façon invisible parce que les deux femmes arrivent au moment de la moisson de l'orge. Avant de nous raconter ces événements de fond qui constituent le chapitre 1, bien, l'auteur nous donne l'époque. Quelle est l'époque de cette histoire? OK, le temps du gouvernement des juges ou... Selon la fin de ce livre-là, chacun faisait ce que lui semblait bon. Fait que c'est une histoire, Ruth, c'est une série d'événements extraordinaires dans une époque très ordinaire. On a vu également que l'auteur est préoccupé par ce qu'on appelle la providence divine. À savoir que Dieu dirige les circonstances afin d'accomplir son plan et de bénir son peuple. L'histoire est exceptionnelle pour sa qualité littéraire, oui, mais je vous propose que sa puissance vient de l'Esprit. Parce qu'à travers elle, l'Esprit évoque, communique tout ce que le Père veut accomplir à travers le Fils. Oui, à grande échelle dans le monde public, pour reconnaître sa seigneurie, mais en même temps, sur une base individuelle, chez les gens qu'il veut transformer, qui va transformer, qui appelle à vivre une vie sainte dans un monde où, même comme aujourd'hui, la plupart font ce qui leur semble être bon. Tournez avec moi au chapitre 2 de Ruth. Et on va lire que les 3 premiers versets pour partir. Ruth 2, versets 1 à 3. Je vais juste prier. Seigneur, on est prêt à t'écouter. On est prêt à mettre en pratique ce que tu nous appelles à faire, à saisir des occasions que tu nous donnes dans ta Providence. Dans le nom de Jésus. Amen. Noémie avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec qui se nommait, on va l'appeler Boaz. Et pas Boaz ou Boaz. Okay. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en vint glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Fait que d'abord, au tout début de ce chapitre, on rencontre Boaz. Puis Boaz est présenté comme quelqu'un de bien placé. Il est riche, il est puissant. Et la même phrase ailleurs est traduite « vaillant héros », comme pour Gédéon. Fait que Boaz est un vaillant héros, riche et puissant. Fait qu'on est, on est mis au courant tout de suite qu'il existe quelqu'un d'intéressant de la famille de Noémie et donc de Ruth, qui est riche et puissant. Qui sait où ça va amener? Ruth, pour sa part, a une idée. Okay? Elle songe à aller ramasser des épis qui sont laissés par les moissonneurs dans les champs. C'est une forme d'allocation, si on veut, pour les gens à faible revenu à l'époque. Et on pouvait aller ramasser ce qui était laissé par les travailleurs pour avoir au moins un peu de nourriture. Notez que l'auteur, le verset 3, encore nous attire l'attention que Ruth, plutôt verset 2, que Ruth soit une Moabite. Elle n'est pas native du coin. Pourquoi c'est important? Bien, il renforce l'auteur, ce qui va arriver par la suite est peu probable, humainement parlant, pour quelqu'un qui n'est pas natif du coin. Et en plus, les Moabites sont méprisés par le peuple d'Israël. Okay? Fait que si toi t'étais Ruth, bien, quel champ choisir? Elle est nouvellement arrivée, ne connaît pas personne. Bien, il me semble que n'importe quel champ va faire l'affaire. T'sais, les épis dans un champ, ce sont pareils aux épis dans un autre champ. Mais ce n'est pas de même que ça arrive dans le texte. Verset 3. Une traduction dit, ma traduction, « Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz. » Une autre traduction dit, « Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz. » Et la deuxième est peut-être meilleure dans la mesure où, dans le texte d'origine, ça dit quelque chose comme, « Ça a donné qu'elle se trouvait dans le bon champ. » Vous vous rappelez qu'on est déjà prêt pour un vent favorable à la fin du chapitre 1, lorsque les deux femmes arrivent au bon moment. Moment propice de la moisson de l'orge. Et Noémie, à la fin du chapitre, continue à se plaindre en disant, elle annonce que la pluie, là. Pluie. L'auteur, il dit, soleil. Tu sais, puis en tant qu'auteur, t'as toujours, en tant qu'esprit de Dieu, bien, il a le dernier mot. Ça fait que l'auteur nous met au courant qu'il y avait cet hasard heureux, si on veut. Puis il dit, oui, en plus, est-ce que j'ai mentionné qu'il vient de la famille d'Élimélec? Encore verset 3, il le répète, il l'a déjà dit. Mais c'est quelqu'un d'intéressant, elle arrive au bon champ, puis là, cet homme vient de la famille d'Élimélec. Fait qu'en débutant la scène comme ça, l'auteur il veut être sûr qu'on comprenne que les événements qui vont suivre se sont produits par la providence de Dieu. La dernière fois, on a vu dans Ruth 1 que Dieu dirige les circonstances, il dirige son orchestre, si on veut, même quand il a à sa disposition des joueurs qui sont ordinaires, qui suivent plus ou moins ses indications. Bien, dans le chapitre 2, il va rajouter que Dieu emploie également des musiciens exceptionnels qui sont prêts à jouer, qui sont prêts pour la providence. Lisons ensemble les versets 4 à 17 maintenant pour voir la suite. Voici que Boaz vint de Bethléem et dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous! » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse! »
Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « Qui est cette jeune femme? » Puis le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « Ben, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie, la compagne de Moab. Elle a dit, « Je vais glaner, ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Depuis qu'elle est venue, d'ailleurs, ce matin, elle était debout jusqu'à présent. Elle ne s'est assise qu'un moment à la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, va pas glaner dans un autre champ. T'éloigne pas non plus d'ici. Attache-toi à mes servantes. Et les yeux sur le champ que l'on moissonne, tu iras derrière elle. Voici, j'ai ordonné aux serviteurs de ne pas te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras aux cruches, tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba en se prosternant la face jusqu'à terre. Elle lui dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui suis qu'une inconnue? » Boaz lui répondit, « On m'a raconté en détail tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis que la mort de ton mari et comment tu as abandonné ton père, ta mère, ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait. Que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. » Manquez pas cette phrase parce que ça va être important plus tard. « Sous les ailes de qui tu es venu réfugier. » Elle dit, « J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, moi, je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz lui dit, « Approche. Mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain rôti. Elle mangea, se rassasia et garda le reste. Puis elle se leva pour glaner et Boaz donna cet ordre à ses serviteurs qu'elle glane aussi entre les gerbes, sans que vous lui fassiez d'affront. Vous ôterez même pour elle des javelles quelques épis que vous lui laisserez à glaner sans lui faire des approches. Okay? On dit souvent que les premières impressions d'une personne sont celles qui durent. Okay? Et c'est le cas voulu ici avec Boaz qui est introduit. Okay? Regardez la première action de Boaz au verset 4. Boaz vient de Bethléem, il dit « Que l'Éternel soit avec, que l'Éternel te bénisse. » C'est presque trop bon pour être vrai. T'sais, je serais surpris, ben, sauf quelques exceptions, d'entendre que vous commencez, votre patron commence la journée de travail de même. Pensez-y. Avant de venir au Québec, je travaillais pendant un an pour une entreprise de rénovation. Homme à tout faire. Puis... ma première journée de travail, j'ai déjà rencontré le propriétaire. Lui, on est toujours amis, t'es correct. Mais là, il me présente à celui pour qui j'allais travailler cette journée-là. Puis là, il s'appelait Jean, le chef d'équipe. Puis le chef d'équipe, Jean, il m'a dit quelque chose. Puis je vais vous dire ce que j'ai entendu. Okay? Bla, bla, bla. Okay? C'est ce que j'avais compris. Puis avant même que j'ai le temps de lui demander pardon, j'ai pas entendu. Il dit, j'ai dit, va-t'en dans le camion tout de suite. J'étais pas un enfant non plus. Tu sais, j'ai dit, plusieurs choses passaient par ma tête, là, mais c'est-tu trop tôt pour donner ma démission? Tu sais, j'avais même pas commencé la journée. Mais je vous dis que ça donne en rien le goût de travailler. Mais Boaz, par contre, il a saisi quelque chose de fondamental. C'est que des employés satisfaits bien, donnent un meilleur rendement. Mais c'est plus que ça. T'sais, le travail qui se fait, sa relation avec ses employés, est placé dans le contexte de l'Alliance. Il dit, que l'Éternel soit avec vous en rentrant. Non, 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 que l'Éternel te bénisse, t'es le gars. Il existe un respect mutuel à cause de l'alliance, à cause de leur relation avec l'Éternel. Fait que Boaz, par la suite, il se renseigne concernant la jeune femme. Et la réponse du responsable, ben, est peut-être au début plus ou moins positive. Ben, c'est la Moabite. Encore, les Moabites sont méprisés. Que fera Boaz dans cette situation? On trouve qu'il est plus que compatissant envers elle, dans une situation où ça aurait été en quelque sorte excusable, qui fait le minimum, ben, il donne à la jeune femme des indications de réussite, il la protège, il lui donne à boire. Et Ruth pose la même question que nous on a. Regardez le verset 10. Elle tomba se prosternant la face jusqu'à terre. Elle dit, « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnu, moi qui suis qu'une inconnue? » Et la réponse de Boaz est tellement révélatrice. OK? Il ne dit pas, « Ben, t'es rien de spécial, je ferai pareil pour tout le monde. » C'est quoi qu'on a l'impression qu'il est quelqu'un de généreux? Il dit pas non plus, « Ben, franchement, je te trouve belle. Puis je voulais gagner des points. » T'sais, on n'a rien de ça comme indice dans le texte. Au contraire, plus tard dans l'histoire, puis il faut être là la prochaine fois pour voir la suite, mais on trouve qu'il est un peu lent sur ses patins à propos d'elle. Là. Mais pour des bonnes raisons, on verra. Ce qu'il dit vraiment, c'est que, ben, j'ai entendu parler de toi. Comment tu as placé ta confiance en l'Éternel, comment tu t'es mis sous ses ailes, et je veux t'encourager là-dedans. Notez, important, notez qu'il fait le contraire que Noémie. Lorsque Ruth a dit, « Hey, ça m'intéresse ton Dieu, puis Noémie dit, « Ah, ben je te le conseille pas, franchement, mon Dieu n'est pas bon. » Puis, tandis que c'est le contraire avec Boaz, il l'encourage dans son chemin. Et en fait, quand vient le moment du repas, il lui donne un petit pique-nique spécial à elle. Puis, il donne les instructions au moissonneur. Il dit, ben, laissez tomber comme par exprès un surplus. Tu sais, un peu comme glaner, glaner, glaner. Oups! L'année. Oups, j'en ai échappé. Dans une situation où ça aurait été en quelque sorte excusable de faire le minimum, Boaz fait le maximum pour une étrangère, en particulier à cause de sa foi. Il lui montre une grâce abondante. Et voici ce qu'on devrait voir à travers cet épisode. Si au chapitre 1, on a compris que la providence divine opère dans les circonstances difficiles et que Dieu emploie même nos mauvais coups pour faire avancer son plan. Bien, au chapitre 2, on se rend compte que la providence est aussi véhiculée à travers les hommes et les femmes qui vivent par la sagesse biblique, qui sont prêts pour la providence. Pourquoi je dis sagesse biblique? Bien, il y a un élément que je n'ai pas mentionné à date. Dans l'ordre de nos Bibles tel qu'on l'a à date, Ruth suit quel livre? Juge. OK? Ce qui nous donne le contexte temporel. Dans l'ordre de la Bible en hébreu, hébraïque, ben, Ruth suit le livre des Proverbes. Intéressant. Entre Proverbes et Cantiques des Cantiques. Et je suis pas en train de dire que ça devrait être un autre ordre, c'est pas ça, mais ça nous donne un indice concernant comment les gens à l'époque lisaient et comprenaient les personnages dans l'histoire. Et la raison est probablement que les gens auraient compris qu'il y a certains personnages dans le livre qui illustrent bien les principes de sagesse qui sont présentés dans ce livre-là et d'autres qui sont les exemples mauvais. Mais qui dans le livre de Ruth serait un exemple de quelqu'un qui vit des principes de sagesse biblique? Mais on sait que c'est pas quelqu'un comme Élimélec. Élimélec, au contraire, illustre bien l'insensé du livre des Proverbes qui meurt avant son temps à cause de sa folie. Boaz, par contre, et Ruth, ce sont des personnages qui vivent par les qualités de sagesse biblique. Boaz est généreux envers les inconnus. Il montre un respect pour ses employés. Il est au courant concernant, il suit la loi concernant la permission de donner de la nourriture aux pauvres dans les champs. Bref, c'est une personne dont la crainte de Dieu touche tous les aspects de sa vie. C'est ça la sagesse biblique. Ça veut juste dire que c'est une foi qui est intégrée. C'est que ce que je crois, mais je mets ça en action. En contraste avec Élimélec, qui n'aurait pas dû aller à Moab, ou bien un monsieur Untel, qui n'est pas nommé, c'est un autre personnage qu'on va rencontrer vers la fin du livre, Untel qui s'en fout de l'Alliance. Il ne met pas en pratique. Ce sont les gens qui faisaient ce qui leur semblait bon. Mais dans Proverbes, l'auteur nous pousse à trouver la sagesse, de trouver ce que j'apprécie puis je connais de Dieu, puis de mettre ça en pratique pour que ça fasse une différence dans la gestion de mon argent, la façon que j'élève mes enfants, ma vie sexuelle, ma relation avec mon patron, tout. Puis Ruth, elle, bien, elle aussi est présentée comme une femme de sagesse dans le livre de Ruth. Elle saisit des occasions, quand on va aller glaner dans les champs, elle travaille très fort, elle est respectueuse, elle est loyale. On voit ça dans notre chapitre. Mais en allant plus loin, on verra que Boaz, prochain chapitre, va l'appeler une femme vaillante. Mais c'est qui la femme vaillante? Proverbe 31. Et c'est la seule fois ailleurs que la femme vaillante est mentionnée dans la Bible. On se reparlera dans les prochaines semaines concernant le lien entre la sagesse biblique, Boaz, Ruth, puis le bébé qui va être né à cause de leur union. Mais pour le moment, on va simplement dire les deux agissent selon ces principes de sagesse dans une époque méchante. Okay? Voici ce que l'auteur aimerait qu'on voit. La providence de Dieu se sert des gens qui vivent déjà par la sagesse, qui sont déjà prêts pour la providence parce qu'ils vivent déjà par la crainte de Dieu. En grandissant, mon père avait un bureau dans la maison. Mon père a été sauvé à l'âge de 19 ans, puis le Seigneur a changé sa vie. Puis dans son bureau, il avait mis un petit dicton. Puis le dicton disait quelque chose comme ça. Des occasions spectaculaires pour être utilisées par Dieu viennent rarement. Mais des petites, par contre, nous entourent quotidiennement. Des occasions spectaculaires pour être utilisées dans le plan de Dieu viennent rarement. Mais des petites occasions nous entourent quotidiennement. Et si vous dites, et je pense qu'on le dit tous qui sont au Seigneur, bien, j'ai vraiment à cœur que Dieu m'utilise dans son plan, c'est-à-dire son plan de faire reconnaître la Seigneurie de Jésus parmi toutes les nations de la terre, puis en même temps, sur une base individuelle, de changer, de transformer les gens qui sont appelés à lui. Bien, intégrer dès maintenant ce que vous savez de Dieu, puis la façon que vous vivez de façon graduelle, c'est ça la sagesse. Le reste va suivre. Est-ce que ton appréciation pour Dieu, ça touche tous les coins de votre vie? Si oui, bien on se met disponible, comme Boaz dans ce chapitre, pour être un instrument de compassion dans le déroulement du plan de Dieu. Voyez-vous, vivre par la sagesse biblique, vivre avec une foi intégrée, c'est pas plate. Parce qu'on sait jamais ce que Dieu va faire avec ça, quand on est prêt. T'sais? Boaz savait pas qu'il allait rencontrer son épouse. Il était déjà fidèle à l'alliance. T'sais? L'auteur, il le sait, puis il veut être certain qu'on comprenne que Boaz était prêt pour la providence. Donc, Dieu dirige les circonstances, il dirige son orchestre, et pour les musiciens qui sont prêts à jouer, bien, il donne des belles occasions. On doit se rappeler de ça en vivant notre vie. On va aller voir à la conclusion du chapitre maintenant les effets, si on veut, secondaires de ce que Boaz fait. Parce que l'auteur veut vite nous montrer que Boaz, il va bénir plus que Ruth au niveau de son besoin à manger, mais les actions de Boaz vont également toucher l'attitude de Noémie. Lisez avec moi les versets 18 à 23. Elle l'emporta, c'est-à-dire Ruth, elle remporte ce qu'elle avait glané, rentra en ville et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi le surplus de son repas et le lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui a fait attention à toi. » Elle raconta à sa belle-mère ce qui s'est passé avec lui, puis elle dit, « Le nom de celui à qui j'ai eu affaire est Boaz. » Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui n'abandonne sa bienveillance envers les vivants et les morts. » « Cet homme est notre proche parent, » lui dit encore Noémie. « Il est de ceux qui ont envers nous devoir de rachat. » On va expliquer ça tantôt. Ruth, la Moabite, reprit. « Il me dit aussi, « Attache-toi à mes serviteurs jusqu'ils aient achevé tout ma moisson. » Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes, qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle s'attacha aux servantes de Boaz pour glaner jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges et de la moisson des blés. Elle demeurait avec sa belle-mère. Alors, Ruth rentre des champs ayant glané toute la journée, puis elle raconte à sa belle-mère ce qui s'est passé. Quand vous lisez ces histoires bibliques, faites attention, il faut surveiller le changement dans les personnages. Est-ce que les personnages changent en cours de route ou non? C'est souvent révélateur du message de l'auteur. On a déjà vu à propos de Noémie, je pense Naomi, mais vous comprenez, Noémie, ses propos très amers. Okay. L'Éternel m'a fait du mal. « Mon Dieu n'est plus bon, il prend plus soin de moi. » C'est ça son chant. Mais regardez le changement au verset 20. Noémie dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il n'abandonne pas sa bienveillance envers les vivants et les morts. » Et le langage du verset est ambigu, laissant la porte ouverte que Noémie pense en particulier à la bienveillance de Dieu et pas simplement de Boaz, autrement dit. Okay? Ou au moins qu'elle voit que le Seigneur travaille à travers Boaz. Et dans le temps, à l'époque, si un homme mourait sans avoir un fils, ben, un autre membre de la famille pourrait racheter son terrain d'abord, puis avec le terrain, venez, l'épouse. Et Noémie, elle allume, puis elle envoie la possibilité ici. Ce que j'aimerais souligner dans cet épisode, c'est que d'une part, Dieu était à l'œuvre pour s'assurer que la ligne messianique continue, parce qu'on sait que l'histoire, en fin de compte, est à propos de Ruth puis Boaz qui doit venir ensemble, puis donner naissance à l'ancêtre du Messie. Fait que Dieu est à l'œuvre à ce niveau-là. Mais également que Boaz s'est mis disponible pour aider Ruth. Et troisièmement, maintenant, les effets secondaires, c'est que Noémie commence à changer d'avis. Voyez-vous à quel point Dieu est merveilleux pour pouvoir effectuer tout ça en même temps? Parce que Noémie commence à changer d'avis. Elle dit en effet, « J'ai-tu dit que Dieu n'était pas bon? Je voulais dire qu'il était pour moi! Oui, oui, il n'a pas cessé d'être bon. Il n'a pas abandonné sa bienveillance envers nous. » Et avec Boaz comme instrument dans la main de Providence, mais la confiance de Noémie en l'Éternel commence à être, semble-t-il, restaurée. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est rendue, mais au moins on est témoin d'un point tournant à cause qu'elle reconnaît la bonté à travers les actions de Boaz qui a des rues. Voici ce que je pense que ce chapitre puis l'histoire veut nous dire aujourd'hui. Si je vis par la sagesse biblique, si j'ai déjà une foi intégrée qui touche de plus en plus tous les aspects de ma vie, comme on voit avec Boaz et Ruth, bien, la providence divine fera de moi un instrument de grâce et de transformation. La question du chapitre, c'est, suis-je prêt pour la providence? Est-ce que je vois le lien ultimement entre l'élaboration du plan de Dieu et ce que moi je peux apporter? On n'est pas toujours à la hauteur pour saisir ces occasions-là. Puis je veux terminer avec une histoire de ma vie qui illustre que même quand on n'est pas prêt pour la providence, bien, Dieu, Seigneur, il travaille avec nous, nous donne d'autres occasions. J'étais dans la bibliothèque à Saint-Nicolas, en train d'emprunter des livres. Puis je vois à travers la fenêtre mon ancien professeur de français, un homme que j'estime beaucoup, un homme très fier, un excellent pédagogue, sportif mordu. Puis je le vois assis sur un banc à l'extérieur, troublé. Puis en ce moment que j'aurais dû me dire, je m'en vais tout de suite le voir, j'ai hésité. Est-ce que ça vous arrive? J'étais gêné. Je dis, je sais pas, peut-être je vais le voir en sortant ou je veux pas déranger après tout, là, tu sais. Sors de la bibliothèque, puis là. Je sais qu'il reste à deux pas de la bibliothèque. J'embarque dans mon auto, puis sur le point de quitter le stationnement, mon ancien professeur, il m'approche, puis il vient vers moi, il passe la fenêtre, il dit... Benjamin, je pense que le Seigneur t'envoie aujourd'hui. Bon, dans ce temps-là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, visiblement troublé dans son être, là. J'ai dit, ben, embarque, là, on va aller prendre un café. Puis, il tombe en larmes, puis il me raconte que l'amour de sa vie est parti. Il voulait épouser sa mère est décédée cette année. Il avait perdu son emploi. Bref, ça tombait autour de lui. Tombe en larmes. On se rend chez Tim pour prendre un café. Puis il dit, Benjamin, je sais que tu es un chrétien. Raconte-moi, pourquoi tu crois ce que tu crois? C'est le moment où je suis prêt à t'écouter. T'es pas prêt avant, quand il était tout fier. T'sais, mais à ce moment-là, il était prêt. Et moi, j'ai pu raconter. Mais c'est quoi le péché? Comment est-ce que le Seigneur m'a changé la vie? Et je raconte pas l'histoire pour me vanter. Non, c'est pas ça. Évidemment, parce que moi, j'ai manqué. d'occasion. Je n'étais pas prêt pour la providence. Et des fois, on n'est pas toujours prêt. T'sais? Mais Seigneur, il s'organise pour tôt ou tard nous rendre prêts. Et à travers cette histoire de Ruth, à travers le Boaz, puis l'exemple de Ruth, on a rappelé, on a tous ce désir d'être utile dans la main de Dieu, de faire du bien aux gens de façon terre à terre, oui, mais aussi d'effectuer des changements spirituels, des transformations dans les cœurs. Je ne serais pas surpris d'entendre que vous priez tous, « Seigneur, utilise-moi dans ton plan. » Aujourd'hui, en s'inspirant du texte de Ruth, bien, on peut dire avec confiance que Dieu va le faire. Lorsque, comme Boaz, on se met disponible à saisir tôt ou tard ces occasions providentielles parce qu'on vit déjà par la crainte de Dieu. Des fois, ces occasions seront spectaculaires, comme devenir ancêtre du Messie. Mais d'autres, plus souvent, ce sont des occasions quotidiennes qui nous entourent. Et on peut vivre convaincu que les deux contribuent au déroulement du plan de Dieu, à la fois pour faire reconnaître la Seigneurie de Jésus parmi toutes les nations de la terre, en même temps pour transformer les gens autour de nous sur le plan spirituel et les amener à Christ. On va prier ensemble en terminant. Seigneur, on a la joie d'avoir ta parole. On l'aime. On ne l'adore pas comme on t'adore, mais on l'aime. Puis, on est tellement privilégié de la lire, puis d'apprendre de toi, puis que ton esprit nous donne de mettre en pratique, de saisir ces occasions, de vivre par la sagesse biblique et ainsi d'être prêt à saisir les occasions que tu nous donnes dans l'élaboration de ta providence, de ton plan. Pour la gloire de Jésus. Amen.